Bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Dose de rappel et réforme à venir au menu des Français ce soir à 20h. Emmanuel Macron a des choses à nous dire. On verra lesquelles dans un instant avec Simon le Baron. Et nous irons en Israël où la troisième dose est une formalité largement acceptée depuis cet été. Les astronautes sont-ils des surhommes? On finit par se poser la question à la vue du sourire de Thomas Pesquet cette nuit de retour sur Terre et malgré l'épreuve du retour dans l'atmosphère. Tous à Colombey, le pèlerinage de Gaulle fera le plein en cette année électorale. Récupération, oui, dénonce un Jean-Louis Debré très agacé, on va l'entendre. Avant de parler candidat à l'investiture LR, leur premier débat c'était hier soir, et c'est une figure du parti qui sera tout à l'heure dans ce studio, Nicolas.
Oui, le président du groupe Les Républicains au Sénat, sénateur de la Vendée, Bruno Retailleau, à notre micro avec Léa dans une vingtaine de minutes. Le standard est ouvert et vous attend, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, l'Église et l'argent. Elle va devoir se serrer la ceinture pour indemniser les victimes de pédophilie, de faux porte-avions américains qui servent de vraies cibles aux missiles chinois et une fausse Joconde aux enchères ce soir à Paris. Mais attention, ça n'est pas une vulgaire copie.
France Inter.
La dernière fois, c'était le 12 juillet pour nous annoncer le pass sanitaire dans les restaurants, les trains, les cinémas et l'obligation vaccinale pour les soignants. Trois mois plus tard, que va nous dire Emmanuel Macron ce soir? Rendez-vous à 20h alors que se profile un début de cinquième vague de Covid. Bonjour Simon le Baron.
Bonjour.
On sait déjà, Simon, qu'il sera question de troisième dose.
Avec une mesure qui, selon nos informations, tient la corde pour accélérer la campagne de rappel vaccinal. Il s'agit de conditionner la validité du pass sanitaire à l'injection d'une dose supplémentaire. Alors, dans un premier temps, seuls les plus de 65 ans seraient concernés. Tout cela doit être tranché ce matin au Conseil de défense sanitaire à l'Élysée. En revanche, selon une source au gouvernement, la vaccination des enfants des 5-11 ans et le rappel obligatoire pour les soignants, sujet sensible en pleine crise de l'hôpital, ces deux options devraient être écartées.
Et puis Simon, au-delà de la situation sanitaire, le président va aussi nous parler réforme et reprise économique.
Réforme et surtout réforme des retraites, évidemment. Emmanuel Macron va enfin nous dire ce qu'il compte en faire, la renvoyer à un éventuel second mandat, instaurer sans attendre la pension minimum à 1000 euros en l'ajoutant au projet de budget débattu en ce moment au Parlement, pour mettre à son actif une mesure de pouvoir d'achat et de justice sociale. Une surprise est possible, estiment plusieurs marcheurs historiques. Et puis, sur la reprise économique, il y a un gros point noir, regrette l'exécutif, ce sont les difficultés de recrutement qui risquent de compromettre la relance. Le chef de l'État pourrait donc parler attractivité, autrement dit salaire et conditions de travail. Ses proches évoquent en tout cas une parole forte, une annonce peut-être sur l'emploi et la valeur travail. Partir du sanitaire pour occuper le terrain politique, imposer ses propres thèmes et montrer qu'il est à la tâche quand ses adversaires débattent, vous le voyez, c'est l'objectif d'un président de plus en plus candidat.
Simon le Baron, merci, du service politique de France Inter. On sera donc fixé ce soir sur la nécessité d'une dose de rappel pour continuer à bénéficier du pass sanitaire. L'hypothèse à elle seule a suffi à provoquer un record de 98 000 prises de rendez-vous sur Doctolib hier. Et pour voir comment ça se passe dans un pays qui pratique déjà massivement la troisième dose, direction Israël, où plus de la moitié de la population à partir de 11 ans a reçu son rappel, ce qui a permis de casser la violente vague de l'été, Frédéric Mettezo, sans que personne n'y trouve à redire.
Samantha Assuli a fondé l'organisation caritative Cœur de Maman à Jérusalem. Cet été, elle a eu l'impression que l'histoire se répétait.
On a eu les deux doses, on a cru que c'était fini. Et malheureusement, on a passé une quatrième vague très difficile, avec énormément de morts.
Mais en août, la troisième dose du Pfizer, surnommée Booster, est arrivée en Israël.
Les Israéliens, en général, ils sont très disciplinés. Ils y vont, ils n'ont pas peur, ils ne sont pas du tout complotistes. Donc en fait, il y avait des queues monstres. Quand les troisièmes doses sont arrivées. Là, mes deux garçons vont se faire vacciner cette semaine, 12 ans et 16 ans. Mes grandes filles sont vaccinées, évidemment. Ça marche.
On est passé de 10 000 nouveaux cas par jour en août à une centaine aujourd'hui. Cyril Cohen dirige le laboratoire d'immunothérapie à l'université de Bar-Ilan. Il vient de publier une étude dans la revue Lancet.
Après la deuxième dose, vous avez un taux d'anticorps X et après la troisième dose, ce taux d'anticorps est 5 à 10 fois plus que ce qu'il était après la seconde dose. Donc on a un effet qui est beaucoup plus protecteur. Moi, je crois qu'aujourd'hui, avec l'expérience qu'on a eue en Israël, il faut commencer à baisser la limite de l'âge en France à d'autres populations.
En Israël, les écoliers n'ont jamais été autorisés à tomber le masque. Et ici, il faut 3 doses pour conserver son passeport vert. Jérusalem, Frédéric Mettezo, France Inter.
Et que ce soit pour la dose de rappel ou pour une première injection, on ne proposera plus le vaccin Moderna aux moins de 30 ans en France. La Haute Autorité de Santé le déconseille désormais parce que ce vaccin accroît légèrement le risque de myocardite et de péricardite pour les plus jeunes. Enfin, au Danemark, retour à la case passe sanitaire, de nouveau exigé. Après avoir été abandonné il y a 2 mois, l'épidémie flambe de nouveau quand l'Allemagne réfléchit à bannir les non-vaccinés de certains événements. Proposition de la future coalition de gouvernement face à une hausse record du nombre de contaminations, 200 pour 100 000 habitants.
Voilà, qui ne dépaysera pas Thomas Pesquet.
Et non, la Terre n'a pas vraiment changé en son absence. Et c'est sur l'eau, au large de la Floride, que notre astronaute national et 3 de ses collègues ont repris physiquement le contact. Impact de la capsule à 4h33 cette nuit, après 6 mois à bord de la Station Spatiale Internationale. Bonjour Sophie Becherel.
Bonjour.
C'est donc une capsule qui arrive à l'heure, avec un Thomas Pesquet égal à lui-même, en toutes circonstances, le sourire greffé au visage.
Exactement, le pouce levé, frais comme un gardon. Après 8h30 de voyage retour, ils avaient d'ailleurs tous l'air contents de rentrer. Récupérés en un temps record, 1 heure, dans le golfe du Mexique, sur une mer sans houle, la capsule noircie par les 1600 degrés de la traversée de l'atmosphère a été hissée sur le pont d'un navire de récupération, puis l'écoutille ouverte. Première bouffée d'air marin après 6 mois passés dans des bidons. Ensuite, un à un, les 4 astronautes ont été extraits. Tous ont été déposés assis, les jambes allongées sur un brancard. Pourquoi ? Écoutez la réponse de Sébastien Rouquette du Centre National d'Études Spatiales.
Il faut bien comprendre que 6 mois en impesanteur, c'est quelque chose qui est éprouvant pour l'organisme sur le plan cardiovasculaire, musculaire, osseux. Et du coup, on prend beaucoup de précautions. Ces 6 mois-là, ça leur coûte cher en fait en termes de retour sur Terre. Donc dans les premières minutes, on ne les fait pas tenir debout parce que là, il y a un vrai risque de syncope. Hein, ils peuvent s'évanouir. Donc on les installe dans un brancard jusqu'aux installations médicales.
Alors que les 2 Américains et le Japonais vont réaliser leur check-up médical à Houston, Thomas Pesquet va lui prendre un vol directement pour rentrer en Allemagne. Il est attendu ce soir à Cologne sur l'aéroport militaire. C'est au centre de formation des astronautes et dans sa ville de résidence qu'il fera sa réadaptation et qu'il donnera une conférence de presse vendredi sur ses 2 pieds. Vous pouvez en être sûr.
Sophie Becherel qui a suivi cet amerrissage dans la nuit au large de la Floride. Eux, c'est la mise en orbite qu'ils recherchent, être choisis pour représenter LR à la présidentielle. Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti, Philippe Juvin, réunis pour un premier débat hier soir, on en a parlé tout à l'heure avec Thomas Legrand, et qui se retrouveront aujourd'hui sur la tombe du général de Gaulle à Colombey-les-Deux-Églises pour le 51e anniversaire de sa mort. Anne Hidalgo fera aussi le déplacement, comme chaque année, en tant que maire de Paris. Quand Marine Le Pen déposera une gerbe au pied de la Croix de Lorraine à Courseulles-sur-Mer, c'est là que le général débarqua de Londres. Tous gaullistes, même Éric Zemmour qui se revendique régulièrement du général, ce qui a le don d'exaspérer les gaullistes historiques. Écoutez le coup de gueule de Jean-Louis Debré pour lui, au-delà de la famille LR, les autres n'ont rien à faire avec le général.
Je n'ai pas le souvenir que dans les années où il n'y a pas d'élection, ces gens-là parlent beaucoup du général de Gaulle. Donc ça me laisse un peu sceptique sur la réalité de leur démarche. Tout ça me laisse un peu d'amertume en disant mais pourquoi tout d'un coup, et ceux qui critiquent la Constitution, les institutions, ceux qui ont critiqué la politique du général de Gaulle, sont aujourd'hui les premiers à s'en référer. Mais pourquoi? Uniquement pour donner l'impression, pour semer l'illusion. Il y a un côté indécent. Ces femmes et ces hommes politiques de toute tendance n'ont pas d'idées, sont incapables d'avoir une vision de l'avenir de la France, de l'avenir de l'Europe. Comme ils n'ont pas d'idée, et ben ils se réfèrent à De Gaulle, oubliant qu'ils l'ont combattu.
Jean-Louis Debré avec Élodie Forêt. Et voilà un héritage très lourd à porter, celui de l'Église de France qui assume les crimes pédophiles commis par ses religieux et qui indemnisera donc les victimes. Les évêques l'ont annoncé hier. L'Église y mettra de sa poche en vendant des biens ou en prenant un emprunt s'il le faut. En sachant que la situation financière de l'institution est fragile, déficitaire, l'an dernier, elle va donc falloir se serrer la ceinture. C'est comme ça, reconnaît le secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France, Ambroise Laurent, en charge des affaires financières, au micro de Delphine Evenoux.
On ne sait pas combien sera nécessaire. Ce que nous disons simplement, c'est que dans une toute première étape, pour pouvoir démarrer, il faut qu'on réunisse davantage que ce qu'on pensait réunir. Donc voilà, il faut réunir de l'ordre de 10 à 20 millions rapidement. De fait, l'Église va s'appauvrir. De fait, l'Église va réduire son niveau de sécurité, son confort, même s'il est très limité. Hein. De fait, nous allons avoir l'Église au sens large, les mouvements, les sociétés civiles, immobilières qui ont été utilisées pour accueillir des biens immobiliers ou les construire. Voilà, tout ça va être passé au crible, en revue, pour voir tout ce dont nous devons nous dessaisir, si nécessité. Donc on va faire l'inventaire, aujourd'hui même, hein, j'ai une réunion à 14h avec l'ensemble des économes, et on va commencer à se mobiliser pour voir tout ce qu'on peut mobiliser pour être au rendez-vous.
En Mayenne, les recherches vont reprendre ce matin pour retrouver une jeune fille de 17 ans qui n'est pas revenue de son jogging hier après-midi dans un bois du sud du département. 120 gendarmes seront sur zone ce matin. Pour l'instant, le motif terroriste n'est pas retenu après l'attaque de policiers au couteau hier matin à Cannes. C'est une enquête pour tentative d'assassinat qui a été ouverte dans la soirée et confiée au parquet de Grasse. Et puis on apprend à l'instant que deux hommes ont été placés en garde à vue hier soir dans cette enquête. Toujours plus loin de Calais et du Boulonnais, les candidats à l'exil en Angleterre tentent le tout pour le tout pour arriver de l'autre côté de la Manche. Et de plus en plus, ils tentent de traverser plus au sud, en baie de Somme, alors qu'il y a plus de distance à parcourir. Mais la zone est supposée moins surveillée, ce qui n'est plus tout à fait vrai. Les gendarmes ont par exemple une nouvelle brigade à cheval qui patrouille dans les dunes. Reportage à Quimplage, signé Faustine Calmel.
Ceux qui vivent dans cette petite station balnéaire comme Nathalie n'ont pas pu passer à côté des tentatives de départs en mer.
Bon, j'en ai vu une trentaine avec des femmes, des en pleine nuit, quoi. Je vois dans les dunes, ils peuvent se faire un trou sous terre et puis la personne peut les repérer. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Hein.
C'est dans ces dunes que patrouille Nicolas Guilbault, commandant du poste à cheval de Saint-Valery-sur-Somme, qui y retrouve régulièrement
des bateaux, des moteurs, des gilets de sauvetage, ce genre de choses, quoi. Alors, on a l'avantage, c'est qu'on peut couvrir une grande distance et surtout, on accède beaucoup plus facilement qu'à pied. Et ensuite, le fait d'être en hauteur confère aussi l'avantage d'avoir une meilleure visibilité sur le terrain. Quoi.
Pour empêcher des départs dangereux, la semaine dernière, un migrant a été retrouvé mort dans son embarcation. 49 autres en état d'hypothermie dans les dunes de la commune voisine. La gendarmerie tente donc de s'attaquer aux passeurs.
Le chef d'escadron Colongo, le commandant de la compagnie d'Abbeville. Des gens qui semblent prendre un petit peu le lead dans le groupe. Et sur ces gens-là, on essaie de tirer des ficelles et d'avoir une action judiciaire contre eux. Récemment, je crois qu'un ressortissant polonais et un autre allemand ont été condamnés à plusieurs mois de prison avec sursis.
Les autres personnes se voient remettre une obligation de quitter le territoire puis repartent, beaucoup en train, vers Calais, jusqu'à la prochaine tentative.
Faustine Calmel a un coup de filet chez les hackers. 7 pirates informatiques arrêtés lors d'une opération de police internationale annoncée hier en Europe et aux États-Unis, dont un Ukrainien de 22 ans mis en cause dans une cyberattaque géante cet été, notamment contre la chaîne de supermarché Coop, dont les magasins suédois avaient dû fermer plusieurs jours. Il a été interpellé en Pologne. Autre guerre, plus classique, celle-là. La scène se passe dans un désert chinois où des satellites d'observation qui ont la vue bien nette ont très bien vu des porte-avions et des navires de guerre américains. Ces dernières semaines, ce sont des maquettes en taille réelle, Eric Biegala, sur lesquelles l'armée chinoise teste ses derniers missiles.
Les images satellites de la société Maxar, diffusées depuis dimanche et analysées par le Naval Institute américain, montrent en effet clairement une réplique à échelle 1 d'un porte-avions de classe Gerald Ford, la dernière génération des porte-avions américains. Également visibles plusieurs destroyers, très semblables aux destroyers lance-missiles de classe Arleigh Burke et comprenant des structures de ponts similaires, les tourelles, les canons, etc. Au moins 5 de ces bateaux-cibles sont visibles sur les images de Maxar et ils sont positionnés dans un périmètre qui ressemble clairement à un immense polygone de tir si l'on en juge par les centaines de cratères et autres points d'impact laissés au sol. Ce n'est pas la première fois que l'armée chinoise utilise des répliques de porte-avions américains pour s'entraîner au tir, mais ces derniers modèles de cibles sont aussi montés sur rail et donc mobiles. Une cible mobile de la taille d'un porte-avions, c'est sans doute ce qu'il fallait à Pékin pour tester son Dongfeng 21, possible premier missile anti-navire balistique, également déjà surnommé le tueur de porte-avions.
Eric Biegala, enfin le faussaire, n'était pas chinois. La copie a été faite en France dans les années 1600, une Joconde. Pas la vraie donc, en vente chez Arcurial à Paris ce soir. Troublante copie, en parfait état, Isabelle Pasquiel, a été réalisée seulement 100 ans après la toile de Vinci.
La copie est troublante tellement on retrouve le même sourire énigmatique, le même velours de la peau, le sfumato, ces fondus délicats entre ombre et lumière. mais avec moins de délicatesse dans le paysage. C'est un peintre anonyme qui a peint cette copie au château de Fontainebleau et sans aucun doute devant la Joconde. Mathieu Fournier, commissaire-priseur.
Ce tableau est extraordinaire à plus d'un titre. Tout d'abord, cette Joconde est peinte sur un panneau de chêne, le support par excellence pour la grande peinture. Résultat, le tableau nous est parvenu dans un état de conservation extraordinaire. Ensuite, le panneau a été peint devant l'original. L'exactitude dans le rendu du visage montre la très très grande qualité d'exécution.
Et cette copie nous montre les couleurs de la Joconde dans sa jeunesse, enfin quand elle n'a que 100 ans.
Une intégrité au niveau de la préservation des couleurs qui nous permettent de voir la Joconde telle qu'elle était au XVIe siècle. Parce que le tableau du Louvre, tel que nous le voyons aujourd'hui, est extrêmement jauni, un petit peu caramélisé au niveau de son rendu.
Reste que malgré la performance technique de cette copie, la présence de Mona Lisa n'est pas la même. Une sorte de magnétisme en moins, le mystère inimitable de l'art de Léonard.
Voilà, c'est une famille particulière qui met en vente cette copie, estimée à au moins 200 000 euros.
Merci Florence Paracuelos. 8h16, la météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec Bleu Forêt, le fabricant français de chaussettes.